Ce balado est une présentation de ADP Canada.
Ça sert à quoi faire une marque employeur? C'est ça. Est-ce que comme candidat, j'ai assez d'informations sur ton site carrière pour savoir si j'ai le goût de postuler ou pas? Puis est-ce que tu me donnes les raisons de venir te joindre ou de rester chez vous?
Pour ce tout premier épisode du balado Idée de grandeur, on reçoit Vincent Mazeroux, qui est le président fondateur d'Attribut, une entreprise de consultation spécialisée en marque employeur. Ça mange quoi donc en hiver une marque employeur? C'est de ça qu'on va parler pendant la prochaine demi-heure. Moi, c'est Ariane Forget, je suis gestionnaire de district chez ADP Canada et aussi l'animatrice du balado Idée de grandeur que vous écoutez en ce moment. C'est quoi ça ADP Canada, vous vous demandez, hein? Eh bien, c'est la plus grande firme de gestion de capital humain au monde. On aide les entreprises à grandir. Donc, sans plus tarder, allons rejoindre mon invité.
On lance le bal, c'est ça? On ouvre la danse?
On ouvre la danse avec un invité exceptionnel. Donc, j'aimerais ça que tu nous expliques qui tu es et pourquoi c'est si magique ce que tu fais dans la vie et comment t'aides les entreprises?
Qui je suis, Vincent Mazeroux, c'est écrit, mais ça s'écrit M-A-Z-R-O-U. Et puis, je suis passionné de culture d'entreprise, d'humain, de marque. Et l'idée, c'était de voir comment on pouvait tout mettre ça ensemble. Donc, avec Attribut, la compagnie que j'ai fondée, c'est de voir comment on peut accompagner les organisations à mettre en valeur, finalement, leurs attributs, hein, leurs différences. Et à partir de là, voir comment on travaille à aider les organisations à s'assumer dans ce qu'elles sont pour dire leur vraie vérité, pas plus, pas moins. Et pourquoi c'est extraordinaire ce que je fais? Ben écoute, moi je suis passionné de ça parce que ça me permet vraiment de challenger le statu quo, les humains qui sont là dans nos organisations, parce que très souvent, quand, en tout cas moi quand j'ai fait beaucoup de recherches sur... Emotions at work, et quand tu tapes ça dans Google, je pense qu'il faut que tu arrives à la cinquième page des recherches de Google pour arriver à des émotions positives reliées au travail. Et tout au long de ma carrière, avant de partir à mon compte, quand je travaillais en ressources humaines, je me suis toujours affairé à voir comment finalement créer un milieu de travail plus épanouissant. Puis c'est vraiment ça, en fait, la promesse d'Attribut, c'est de voir comment on peut collaborer à ça, c'est-à-dire l'épanouissement professionnel des individus en créant des marques, des écosystèmes qui, elles, donnent envie, pas plus, pas moins, que vraiment en fonction de qui elles sont réellement et d'assumer ça, en fait.
Il y a beaucoup de choses que tu as dites qui m'ont accroché, mais il y en a une spécifiquement, c'est dire leur vraie vérité. Parce que j'ai l'impression que, puis tu me diras si je me trompe, mais quand on parle de marque employeur, j'ai l'impression qu'on fait face parfois à des gens qui voudraient s'inventer une espèce de personnalité d'entreprise au lieu d'aller creuser au fond de leurs vraies valeurs puis de ce qu'elles veulent vraiment laisser paraître. Est-ce que je me trompe, Vincent?
J'ai basé mon expertise sur la marque employeur. Pour moi, il en demeure pour moi qu'il n'y a qu'une seule marque, qu'une seule identité, qu'un seul set de valeurs, et à la limite, on devrait parler de marque corporative parce que c'est celle qui s'adresse aux investisseurs, aux clients, aux partenaires, aux employés, aux candidats. Donc, bref, effectivement, c'est d'assumer. Puis, pour revenir sur ta question, je pense, moi, mon grand constat à la fin de cette année-ci, c'est qu'on manque de courage. On ne veut pas assumer, prendre le temps pleinement de se connaître. Et c'est pour ça que je reviens à pas plus, pas moins. Fais juste être toi-même.
Oui, c'est ça. J'adore voilà. Ça. Merci. Donc, est-ce que tu pourrais nous définir là, en quelques mots concrètement, c'est quoi une marque employeur? Rends-nous ça super simple.
Pensez à un diagramme de Venn, deux cercles qui se rencontrent. La marque, c'est le point de rencontre entre les deux cercles, entre ce qu'on dit, qu'on est et ce qu'on fait. Et comment c'est perçu par les gens à qui on parle. Et par perçu, on parle de la logique et des émotions, pas juste de l'aspect logique. Puis ça, je pense que c'est vraiment important, puis on pourrait y revenir éventuellement plus tard, mais il faut absolument oser parler des émotions aussi dans le monde du travail, parce que c'est ça qui fidélise nos gens. Ça sert à quoi faire une marque employeur? C'est ça. Est-ce que comme candidat, j'ai assez d'informations sur ton site carrière pour savoir si j'ai le goût de postuler ou pas? Puis est-ce que tu me donnes les raisons de venir te joindre ou de rester chez vous? Donc, par exemple, je pense à l'expérience employée, ton évaluation annuelle, est-ce qu'elle me donne le goût de rester ou elle me met en colère puis je suis frustré à chaque fois que j'ai ça et donc ça me donne le goût de partir? Et c'est vraiment chez nous parce que chaque être humain, chaque organisation, chaque expérience de vie est différente. Donc, c'est pareil pour l'organisation et c'est d'être capable finalement de la définir concrètement. Donc, on ne bâtit pas une marque employeur, on ne la crée pas. On pourrait la bâtir, mais on la gère. Donc, en fait, elle existe déjà.
Mm-hmm. Donc, quand on dit que, comme quand on va dans un restaurant ou quoi que ce soit, ou qu'on est servi dans une entreprise, le sentiment qu'on a eu avec le service qu'on a reçu, c'est la même chose un peu avec la marque employeur, c'est les candidats et les employés. Comment ils vont s'être sentis après une expérience de travail ou même une expérience d'entrevue?
Absolument.
Puis, est-ce que tu as une idée pourquoi c'est un sujet qui est mal compris ou un peu complexe ou difficile à comprendre? Parce qu'on le voit que c'est tellement hot, ce sujet-là, depuis la pandémie encore plus, mais c'est quand même complexe. Est-ce que tu as une idée pourquoi?
Parce que c'est complexe. C'est pas simple. C'est pas cher, c'est pas rapide, puis c'est flou en plus. Fait qu'il y a plusieurs choses, puis je vais essayer d'être concis par rapport à ça pour que les gens puissent suivre, parce que il y a comme trois volets. J'ai envie de commencer avec ça, les volets puis les objectifs. Fait qu'il y a comme trois volets à la marque employeur. C'est philosophique. Et c'est ce qui fait que ça rend les choses complexes, puis je vais y revenir sur pourquoi. Stratégique et exécution. Donc là, la stratégie, l'exécution, je pense que ça, somme toute, on est habitué dans les organisations. Plus l'organisation est mature, d'ailleurs, plus les organisations sont grandes, plus elles ont tendance à investir dans leur marque employeur, plus sérieusement. Donc, plus normalement, ça, on le maîtrise bien. Mais là, c'est l'aspect philosophique. Et souvent, moi, quand j'accompagne les équipes de direction, je leur demande, c'est quoi votre vision talent? C'est quoi la vision pour votre culture d'entreprise? Puis là, c'est rare que les gens sont capables de me répondre du tac au tac. Soit parce qu'on n'y a pas pensé, soit parce que, mon Dieu, c'est quoi cette question-là? Je ne l'ai jamais entendue. Donc, voilà. Donc, je pense qu'il y a ça. Et ça a quatre objectifs en ordre d'importance. Le premier, c'est fidéliser. Puis, je déteste le mot retenir parce que si on fidélise, les gens ont envie de rester. Mobiliser. Donc, est-ce qu'ils sont productifs, ils ont le goût d'être là? Développer, donc est-ce que je peux grandir? Est-ce qu'il y a une vraie carrière, une opportunité d'avancer chez toi? Et recruter. Donc, recruter, c'est le quatrième en importance, sauf pour les organisations qui sont en croissance, qui, elles, créent des nouveaux postes. Donc, une fois qu'on sait ça, il y a toute la partie donc philosophique de cette grande question et surtout d'intangible. Parce que la marque, comme la culture d'entreprise, c'est intangible, mais ça amène des résultats concrets et tangibles, donc des gens plus productifs, plus motivés. Si tu es capable de retenir tes A-players, on sait que les A-players peuvent être capables de remplacer jusqu'à 3 personnes. Donc, tu économises le salaire de 2 personnes quand tu gardes tes A-players et souvent, ces gens-là génèrent jusqu'à 6 fois plus de revenus pour l'organisation. Donc, ça vaut vraiment la peine de s'attarder, par exemple, à nos joueurs clés. Et donc, au Québec, si je parle du Québec, on aime les choses concrètes. On a une province qui prend des vacances pas mal au rythme des vacances de la construction, par exemple. Donc, c'est quand même majeur, je trouve, pour témoigner de comment ça se vit au Québec. Et on a beaucoup de PME aussi hein, au Québec. Il y a une unicité économique au Canada avec plus de 90 % des organisations qui sont des PME. Et ça, c'est une unicité dans le monde, je pense que je ne me trompe pas en disant ça, ce qui fait que cette grande vision puis cette façon de philosopher, c'est peut-être moins évident pour nous parce qu'on est hyper dans le concret puis dans le tangible. Puis après, ben, est-ce qu'on se donne vraiment le temps au quotidien de le faire? Parce que si dans ton organisation, la fonction ressources humaines s'appelle ressources humaines sur une échelle de maturité jusqu'à expérience employée, ben, tu aurais administration qui serait le niveau 1, ressources humaines niveau 2, niveau 3 qui serait talent et culture et le dernier niveau qui serait expérience employée. Ben, au Québec, des gens qui ont des équipes de RH qui se nomment expérience employée, il y en a très peu. Et c'est quand tu arrives, je pense, à la question talent et culture que là, on regarde beaucoup plus sérieusement la question de la marque employeur. Et c'est là qu'on s'y intéresse pour investir du temps, de l'énergie, des dollars là-dedans. Et ça, c'est pas nécessairement toutes les organisations qui sont rendues là. Donc, je pense qu'il y a plein de morceaux, mais voilà.
Oui, puis on le voit bien aussi, même dans les postes affichés et dans de la façon dont les entreprises vont nommer les postes, hein, parce qu'on le voit de plus en plus. Par exemple, une directrice qui s'appelait avant directrice ressources humaines ou directeur ressources humaines va s'appeler directeur ou directrice talent et culture. Alors déjà, en voyant comment ils appellent leur poste, on voit quel est justement l'objectif ou sur quoi l'entreprise met de l'emphase, n'est-ce pas?
Puis ça revient à la question dont je parlais tantôt, tu sais, la notion philosophique puis la vision talent de l'organisation, c'est là qu'on arrive à plus clairement voir qu'il y a effectivement un travail qui a été fait de réflexion derrière.
Oui, tout à fait. Oui, merci. Puis, pourquoi c'est important de la travailler, notre marque employeur? Est-ce que tu peux nous parler des impacts positifs? Mais j'aimerais aussi que tu nous parles des impacts négatifs de ne pas la travailler.
HBR, si je ne me trompe pas, c'est un article de 2016, disait déjà à l'époque, une mauvaise réputation employeur a deux impacts. Un, réduire le bassin de candidats intéressés à postuler chez vous. Donc ça veut dire que peut-être que tu auras des A, justement, que tu n'es pas capable d'aller chercher parce que tu as une mauvaise réputation. Je l'ai dit, hein, les A, c'est jusqu'à 3 personnes en une, plus jusqu'à 6 fois plus de revenus potentiels générés par cette personne-là. Donc, voici ce que tu peux potentiellement perdre. Et en plus de ça, ça va te coûter, bon là c'était une autre époque, hein, il n'y avait pas la surenchère puis la folie des salaires puis des contre-offres et tout ça, là, mais ça te coûtait 10% de plus pour que les gens signent avec toi. Donc en plus de ça, tu avais une dépense additionnelle sur ta masse salariale que tu devais ajouter pour être capable de convaincre ces gens-là de venir joindre ton organisation. Des gens heureux, ça vaut quoi? Ça vaut combien? Des gens qui embarquent, qui ont le goût d'être là chez vous, l'historique de ces personnes-là, les gens qui forment la relève, les nouvelles recrues, ça vaut combien ça? D'avoir des CV de qualité, ça vaut combien ça? D'optimiser nos budgets de campagne médias, de recrutement quand on a des personas clairs, des messages qui percutent, ça vaut combien ça? Donc, bref, c'est quoi les indicateurs de performance sur lesquels on est capable de travailler pour amener peut-être de la clarté pour les gens? Ben, évidemment, ton délai d'embauche devrait être plus court. Tu devrais augmenter la qualité des embauches, la qualité des CV reçus. Les gens qui font du sourcing, les recruteurs qui doivent faire de la chasse de tête, si ta marque, elle est connue, reconnue et qu'elle a une bonne réputation, normalement, les candidats que tu sources auraient probablement plus envie de te répondre. Donc, toi, tu as l'impression que tu ne mets pas tous tes œufs dans le même panier puis que tu n'as pas de réponse alors que tu as envoyé 400 messages puis tu as eu 20 réponses. Peut-être que là, tu es capable d'avoir 100 réponses.
Je nous interromps quelques secondes pour vous livrer un petit message important. Ce balado-là, on le fait pour vous et c'est pour ça que je vous invite à m'écrire pour me partager vos questions, vos suggestions et vos idées de grandeur. Ariane avec juste un n.forget@commercialadp.com. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Je lis tout.
Oui, puis c'est ça, tu sais, c'est d'être fier de ce qu'on fait, de projeter cette image-là. Puis que les gens aient le goût de se l'approprier. Tu sais, je pense que toi, tu es une super ambassadrice là, pour ton organisation. Je ne veux pas te mettre sur le spot, mais je le fais un peu quand même. Tu sais, si tu es si présente à parler de ton employeur comme tu le fais sur LinkedIn, ben, c'est qu'il y a fort à parier que ça rayonne, c'est positif, ça donne le goût. Tu as peut-être même des gens qui t'écrivent, Ariane, je pensais postuler chez vous. Qu'est-ce que tu en penses? Pourrais-tu m'en parler? Donc, ça crée une relation qui permet vraiment beaucoup plus facilement, rapidement, d'engager normalement des bonnes personnes, celles qui vont fitter chez nous, parce que je crois beaucoup à cette notion de recrutement durable. Ben plus tu t'es structuré et outillé à la base pour donner aux gens envie de travailler chez vous, plus ils devraient rester longtemps chez vous.
Ben écoute, c'est tellement intéressant, Vincent, puis bon, c'était pas prévu que tu me mettes sur le spot, mais pendant que tu parlais, justement, j'étais en train de me dire C'est incroyable, justement, l'impact que ça peut avoir par rapport à l'envie de référer des gens à l'interne. Donc, le coût pour l'entreprise est tellement moins élevé quand on a justement des A-players à l'interne qui ont envie d'aller chercher du monde et de dire « Viens donc travailler chez nous, c'est tellement le fun. En plus, on va travailler ensemble, tout ça. » Donc, oui, effectivement, j'ai beaucoup de gens qui m'écrivent. Puis moi, ça me fait vraiment plaisir, tu sais, d'être fière de l'employeur que je représente, veux pas, vu que je suis le visage que les gens voient, la voix que les gens entendent. Puis ça me fait vraiment plaisir. Puis on a une belle équipe en arrière de nous, tu sais, qui nous aide justement, Caroline qui est avec moi ici aujourd'hui, tu sais, qui nous aide justement à faire rayonner. Donc, je me retrouve aujourd'hui dans une position avec toi où, oui, je t'interview, comme on dit, mais en même temps, tout ce que tu dis, ça résonne personnellement pour moi parce que c'est vrai que je le vis. Donc, c'est un bel exemple, ce que tu dis là. Puis, c'est le fun en plus quand on a du monde qui vient travailler avec nous, puis c'est des amis, puis on a du fun. Donc, la marque Empereur grandit.
Là, tu vois, puis je terminerai juste là-dessus parce que pour ramener des chiffres pour les non-convaincus ou ceux qu'on doit convaincre, parce que souvent, moi, on m'appelle puis on me demande « Vincent, peux-tu m'aider à faire le pitch pour que l'exécutif comprenne puis pourquoi il faut investir là-dedans et tout ça, là? » Mais pour revenir sur les références dont tu parles, la meilleure source de recrutement, c'est les références. Selon différentes recherches et les organisations que j'accompagne, c'est 30 à 40, jusqu'à 40 % du recrutement qui pourrait se faire là. Fait qu'imagine combien tu dépenses en chasse de tête à l'externe, 15 à 20 % par exemple du salaire de cette personne-là. Fait que si on met des chiffres, juste pour mettre des chiffres, là, mettons que tu as 50 embauches par année, tu en donnes 10 à des recruteurs externes et c'est des salaires à 100 000 $. Bon, je suis pas bon en chiffres, là, mais juste pour mettre des chiffres faciles, là. L'agence te prend 15 % te place tes 10 personnes. Ben 15 % de 100 000, c'est 15 000 $ fois 10. Fait que tu as dépensé pour 10 postes seulement 150 000 $ en chasse de tête. Mm-hmm. Puis je pense que c'est une de tes questions plus tard, là, c'est quoi le budget à prévoir pour une marque employeur, là?
Oui.
Je peux faire quoi, moi, avec 150 000 piastres en marque employeur? Beaucoup de choses.
Donne-nous des exemples, là. On veut savoir, OK, admettons, moi, je t'entends aujourd'hui, puis je me dis, oh my God, ça fait longtemps que je me dis qu'il faut que je me mette là-dedans, mais je n'ai rien fait encore. Là, je veux le faire. Je commence par où, puis qu'est-ce que je peux faire concrètement?
Ah my God, c'est tellement une bonne question parce qu'on m'a posé 3 fois la question cette semaine, puis tu n'aimeras pas ma réponse, mais ça dépend! Fait que ça va dépendre.
Budget, ça dépend des gens que tu as qui sont disponibles à travailler vraiment pour faire le travail. Ça dépend de quoi?
Exact. C'est quoi la... Et j'ajoute à ce que tu viens de dire, c'est quoi la profondeur que tu veux donner à l'exercice? Tu pars avec quoi? Fait que moi, ce que je dis toujours, que ça, moi, j'ai accompagné des solopreneurs, des startups de 12 qui vivaient des stades de croissance majeurs et des entreprises de 70 000 et plus employés à travers le monde. Donc, la réponse va donc changer. Évidemment, je ne vais pas dire la même chose à une entreprise de 12 personnes qu'une entreprise de 50 000 employés, évidemment. Donc, ça va dépendre de « je pars avec quoi ». Puis ça, je pense que ça demeure quand même la bonne première étape, c'est-à-dire, c'est quoi mon bilan, là? Fait qu'au-delà de lire sur le sujet puis me faire une tête ou suivre les experts sur le sujet sur LinkedIn ou ailleurs, au-delà de ça, j'ai quoi, moi, là, à l'heure actuelle? La business s'en va où? Puis, en fonction de la vision de l'organisation, puis de l'entrepreneur, du président, de la présidente, c'est quoi le volet talent qui soutient ça? On est-tu au clair là-dessus ou pas? Parce que si ça, c'est pas clair, ben comment tu veux que moi, je t'aide dans ma marque employeur? Parce que je peux autant faire juste des trucs pour le recrutement, mais peut-être que j'ai besoin d'un positionnement employeur ou d'une promesse employeur que je dois retravailler. Fait que, tu sais, il y a tellement de possibilités parce que dans l'infographie que je présente aux gens, je pense que j'ai 35 livrables potentiels. Donc, c'est à toi de me dire qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux pas. Mais donc, plus l'organisation va être petite, plus on va être au niveau du marketing RH. Donc, faire un plan de marketing RH, c'est-à-dire c'est quoi nos piliers de communication, c'est quoi nos grands thèmes, c'est quoi nos sujets, puis de là, comment on est capable de faire sur les réseaux sociaux, par exemple, des posts à une fréquence X. Les personas et la mise à jour du pitch recruteur, puis souvent, après, ça va se faire de concert avec une refonte de l'expérience candidat, fait que le parcours, le processus au travers desquels les candidats vont passer. Comment on fait une marque employeur? Donc, en fait, pensez à une maison, puis il y a 3 grandes étapes. Fait qu'on est un constructeur immobilier. La première étape, c'est la fondation. Après ça, c'est la décoration du condo modèle. Puis après ça, c'est former l'équipe de vente. Si je ramène ça dans un contexte de recrutement ou de projet marque employeur dans une entreprise, là, la fondation, c'est faire un audit, première étape, le fameux bilan dont je te parle. Concrètement, ça veut dire quoi? Souvent, c'est un mélange de entrevue, sondage, groupe de discussion. Pour les groupes de discussion, si on veut pas, si on peut pas, on veut pas, bref, peu importe, mettre des budgets pour aller à l'externe. Je pense que des trois éléments, il faut absolument que les groupes de discussion, par contre, soient animés, facilités par quelqu'un de l'externe pour éviter les biais. Parce que vous, dans l'organisation, vous voyez l'arbre, les gens à l'externe vont voir la forêt. Donc ça, je pense que c'est vraiment essentiel de le laisser à l'externe. Ensuite, on fait notre positionnement, fait que l'analyse de la compétition talent. Pas nécessairement marché là ou consommateur, c'est pas nécessairement les mêmes compétiteurs. Puis une fois que j'ai toute mon data, que je sais contre qui je me bats, là je fais ma stratégie puis je suis à la dernière étape de ma fondation. Fait que c'est quoi que j'ai besoin de mettre à jour, c'est quoi les initiatives sur lesquelles on veut plancher, c'est quoi qu'on veut retravailler au niveau RH global. Puis à partir de là, là, on se redonne une direction claire. Puis après ça, on tombe dans les paillettes, dans le maquillage, dans le fun. Puis c'est quoi les taglines? C'est quoi les publicités? C'est quoi les images? Mais ça, c'est l'étape d'après. Et encore après, on vient rabouter notre expérience candidat puis le pitch des recruteurs. Donc moi, je le ferais vraiment dans ce sens-là pour ceux qui veulent la Ferrari du projet marque employeur. Puis pour ceux qui n'ont pas les moyens de la Ferrari, ben on peut commencer au positionnement employeur si on a les moyens d'aller chez Mercedes. Puis si on a juste les moyens d'aller chez Toyota, ben à ce moment-là, on irait probablement dans un plan externe de recrutement, tu sais.
Intéressant. Puis moi, j'adore les paillettes. Fait que je ferais ça pour être sûre d'en avoir à la fin. Oh my God, j'adore les paillettes. Puis là, tout ça, là, tu sais, c'est quand même... C'est un processus qui est très complexe dans le sens que tu ne peux pas passer à l'étape 3 sans avoir passé par l'étape 1 et 2. J'imagine que sauf que tu risques d'avoir des petits problèmes techniques dans ta fondation en quelque part. Tu vas-tu avoir un mur qui va tomber ou une poutre à mettre en quelque part après quelques années?
C'est un peu ça. Ben, c'est exactement ça. Donc, en fait... Mettons qu'il y a un gros coup de vent qui s'appelle COVID-19 qui arrive, là. Moi, j'ai-tu un château de cartes ou j'ai une maison avec du béton armé dans le sol?
Mm-hmm. Comme dans les trois petits cochons, hein? Tu veux vraiment que quand il y a un gros coup de vent qui arrive, ta maison est solide puis elle se tient debout comparé aux autres.
Voilà. Puis tu sais, pour rassurer peut-être les gens qui nous écoutent, cet exercice-là, s'il est fait pour vrai comme il faut, une bonne fois pour toutes, à moins qu'il y ait des fusions, des acquisitions puis des choses majeures dans l'histoire de l'organisation, ben la bonne nouvelle, c'est qu'on fait ça qu'une fois.
Moi, j'ai déjà lu en quelque part que ça prend 5 à 7 ans pour vraiment bâtir une marque employeur solide, mais je ne suis pas une connaisseuse, donc j'aimerais que tu nous dises, Vincent, combien de temps une entreprise doit prévoir pour être capable de bâtir justement une maison qui ne va pas s'effondrer si la COVID arrive?
J'ai entendu la même chose que toi pour la culture d'entreprise. Ça prend à peu près cette période-là aussi, jusqu'à 8 ans même, pour changer bout en bout une culture d'entreprise. Donc, c'est excessivement laborieux. Si on faisait, ben, évidemment, ça va dépendre de la taille de l'organisation. Donc là, tu vois, sans nommer les organisations, les entreprises avec qui je travaille en ce moment sont des PME moyennes. Je pense qu'on pourrait dire 250 à peu près employés. Puis en tout et partout, mettons, faire le projet pour partir le truc, on va être à 6 mois de travail à peu près pour la fondation. Mais là, comme une voiture qui doit aller au garage après je sais pas combien de milliers de kilomètres, ben ça, il faut que ça s'entretienne. Fait que, en fonction des objectifs qu'on va s'être fixés, est-ce qu'on les a atteints ou non? Est-ce qu'on fait des suivis trimestriels, annuels? Bon, peu importe. C'est là que, en fait, c'est the never ending story, là. C'est l'histoire sans fin, en fait. Parce qu'une fois qu'on a démarré, normalement, on continue à soutenir les efforts encore et toujours.
Ouais, effectivement. Il faut toujours s'assurer, justement, qu'on est au top, puis de continuer de faire notre étude de marché constamment aussi pour voir de quelle façon on se distingue, puis de continuer d'ajouter aussi des perks dans notre offre, j'imagine, qui sont autres évidemment que juste le salaire, là. Comme, bon, je suis sûre que tu peux nous parler de plein de choses, mais par exemple, nous, on parle souvent, tu sais, de sondages pour l'engagement des employés, tu sais, de faire ça de façon récurrente, puis d'être capable d'avoir de la reconnaissance à l'interne, mais la reconnaissance par les pairs aussi.
Quand
on sait qu'on peut être reconnu, mais pas seulement par des niveaux hiérarchiques, ça peut amener justement un plus que les autres n'ont pas.
Puis tu me fais penser, il y a quelque chose que j'ai oublié de partager, je me permets, parce que ça, avec ce que tu viens de me dire, j'ai comme un flash. Il y a 5 piliers à la promesse employeur. Fait qu'un des grands livrables d'un projet complet de marque employeur, moi j'appelle ça la promesse employeur parce que je trouve que c'est beaucoup plus fort que ce qu'on va lire traditionnellement. Le terme théorique, c'est proposition de valeur employée, donc PVE, ou en anglais, probablement ce que les gens ont dû voir ou trouver facilement sur Internet, c'est EVP. Moi, j'ai transformé ça en promesse employeur parce que je considère que c'est un engagement réel qu'on prend. Et quand on décide de formaliser sa promesse employeur qui est au-delà d'un tagline marketing de communication, il y a 5 piliers qui sont « Ma job à moi, est-elle intéressante? Comment contribue-t-elle à la mission puis à la vision de l'entreprise? » Il y a ce que tu viens de nommer là, donc ce qu'on appelle la rémunération globale, donc les salaires et les perks, l'environnement de travail, les relations et tout ce qui est lié à ce que moi j'appelle les opportunités. Donc vraiment, est-ce que je peux grandir? Est-ce qu'il y a de la formation qui m'est offerte et tout ça? Donc relations, c'est vraiment les relations avec mes collègues, entre autres justement, puis la fameuse reconnaissance dont tu parlais. Et l'environnement de travail, c'est disons plus les politiques de ressources humaines et le lieu. Bon là, c'est sûr qu'on est encore un peu ambigu dans est-ce que je travaille physiquement au bureau ou pas, mais le lieu physique, les outils, par exemple.
Effectivement, ça donne une idée claire pour nos auditeurs aujourd'hui de savoir au moins les 5 piliers, puis s'ils veulent commencer par quelque chose.
Ben la réponse simple, c'est parler à votre monde. Ouais. Si vous avez pris le temps de parler à votre monde, faites une mise en commun de cette collecte d'informations-là pour identifier les tendances qui reviennent des gens. Puis là, tu es capable de te faire un plan de match parce que si je dis n'importe quoi, tu as 50 personnes dans ton organisation, puis sur les 50, tu en as 40 qui t'ont parlé de, je sais pas moi, de la formation liée à l'accueil et l'intégration qui est déficiente, ben peut-être que tu as un indicateur très clair sur la première action à poser.
Si vous voulez ne rien manquer de nos prochains balados et des nouvelles tendances dans le monde entrepreneurial, je vous invite à me suivre sur LinkedIn, Ariane Forget, juste un N à Ariane. Je partage beaucoup de contenu en lien avec le leadership et les ressources humaines et le tout est toujours saupoudré de mon légendaire sens de l'humour. Fin du message publicitaire, on retourne à Vincent. Tu sais, on entend souvent les RH sont impliqués dans le projet de restructuration de la marque employeur, mais est-ce que c'est vraiment juste une affaire de RH? Ou
non,
c'est
ça,
qui
c'est
les
une erreur.
Ouais. C'est qui les gens concrètement qui vont être impliqués dans ce processus-là?
Ça va dépendre de l'organisation, mais parce que tu sais, je pense qu'il y a une différence entre une entreprise gérée par l'entrepreneur, fondateur, toujours en poste, et les autres cas de figure potentiels. Je pense que si tu as un entrepreneur qui est en poste, il y a fort à parier qu'il va vouloir être impliqué dans le parcours, dans le projet. Si c'est autre chose, il sera ou elle le sera peut-être aussi, mais je pense que là, ça touche tellement à quelque chose de sensible que les entreprises gérées par des entrepreneurs, je pense que ça, c'est clair que la personne à la tête est là. Ensuite, l'erreur, c'est que ça soit juste. En fait, je pense que la pire erreur, c'est que ça soit juste dans l'équipe de recrutement, le projet. Fait que, puis pour moi, je pense que c'est aussi une erreur que ça soit dans l'équipe RH, fait que mettons un peu plus large, parce que ce que j'ai oublié de dire tantôt dans pourquoi c'est compliqué, tu sais, ta question de pourquoi c'est difficile, Vincent, oui. C'est parce que c'est transversal. Et les business sont designés depuis Henry Ford en silo pour être apparemment plus efficaces, ce qui n'est pas vrai. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à le faire, parce qu'on a perdu cette vue d'ensemble-là. Et donc, si on comprend que c'est transversal avec le volet philosophique, entre autres, dont j'ai parlé tout à l'heure, ça doit absolument être attaché au plan d'affaires, au modèle d'affaires de l'organisation, puis la vision de l'entreprise, donc l'équipe exécutive, pour que ça soit bien clair pour les gens qui nous écoutent. Puis effectivement, après, ça descend. Donc, si l'organisation, elle est très grosse, et qu'il y a une équipe corpo, moi, ma recommandation, ça serait de mettre le projet de marque employeur dans l'équipe corpo. Si ce n'est pas le cas, je pense que la personne imputable, ça devrait quand même rester le VP ou DRH, là, tu sais, peu importe, là, mais très rapidement faire l'exercice de concert avec les cousins du marketing et ou de la communication. Donc, moi, ça serait vraiment les entités autour de la table nécessaires pour la bonne conduite du projet.
Donc, ce qu'on comprend, c'est que c'est vraiment un projet multidisciplinaire pour oui, que ce vraiment. Soit vraiment un succès.
T'as excessivement bien dit parce que il y a des gens qui ont essayé de définir un genre de cursus sur ou corpus, je sais pas comment on dit, là, j'ai pas le mot, mais de compétences nécessaires pour les professionnels de marque employeur, puis on part dans toutes les directions. Il y en a 16 à peu près ou 21, je sais plus de mémoire, là. C'est Talent Brand qui a défini ça. Cherchez Talent Brand 16 Core Competencies for Employer Brand Management ou un truc comme ça, là, sur Google, puis vous allez les trouver. Et on part dans la rédaction, la connaissance de la culture, des ressources humaines. Ça prend des connaissances en recrutement, marketing numérique, marketing de contenu. Donc, on est souvent un jack of all trades avec beaucoup de branches.
Donc, j'imagine que c'est pour ça que les entreprises utilisent tes services, pour que tu sois capable justement de les coacher dans tout ce qu'ils ont besoin de faire, puis les accompagner dans un projet comme celui-ci.
Bien, il y a plusieurs choses, effectivement. Donc, les gens, ils ont besoin d'être challengés puis d'avoir un regard neuf sur leur organisation. Donc, il y a le fait d'aller à l'externe qui vient donner cette grande valeur au projet. Et après, ben, il y a effectivement l'expertise qu'on ne retrouve que très peu, je pense qu'on pourrait dire dans le monde, parce que je pense que c'est nouveau, parce que le premier article scientifique sur la marque employeur date de 1996 avec Simon Barrow qui a écrit ça en Angleterre puis qui a fait le premier livre là-dessus après, pas si longtemps après. Donc, ça fait 30 ans que ça existe, même pas. Donc, c'est très nouveau. Et donc, parce que ça prend tout ça comme compétence dans une même personne ou dans plusieurs individus, c'est ce qui fait que c'est compliqué puis qu'on n'a pas une fonction dédiée à l'interne et qu'il y a des licornes comme moi qui passent une heure tous les matins à lire et qui, depuis 3 ans, ont 350 pages de notes dans un Google Doc que je ne voudrais pas perdre, qui permet de réussir à faire ce travail-là avec les organisations, mais c'est beaucoup de boulot. Ouais.
Hey, t'as dit un deuxième mot que j'adore, les licornes. J'adore oui. Les licornes, j'adore les paillettes. Donc, imagine des licornes à paillettes.
Écoute.
Je trippe. Solide. Et oui. Ma fille de 5 ans aussi. Alors, ça me permet de triper sans avoir l'air d'une débile.
Ah, ben tant mieux. On est 3 alors. On est au moins 3.
On est au moins 3. Je suis sûre qu'il y en a plein d'autres. Vous nous le direz.
Oui, c'est ça.
Donc là, écoute, c'est tellement intéressant. On pourrait en jaser encore là, durant toute l'après-midi. Mais j'aurais envie de te demander, admettons là, qu'on t'écoute aujourd'hui puis qu'on se dit, nous autres, là, on n'a pas encore le budget vraiment pour démarrer un projet aussi intense que ça, puis travailler sur tout ça, mais on aimerait commencer en quelque part. Qu'est-ce que je fais pour commencer?
Lire, parce qu'il y a plein d'informations disponibles en ligne, il y a des podcasts, des articles. Donc, je pense que ça prend une base de connaissances. Donc, ça veut dire que si on n'a pas les budgets pour accélérer la mise en place de ce projet-là, faut accepter que ça va prendre du temps. Et comment on répartit ce temps-là? Moi, je pense que si tu n'as pas compris à quoi ça sert, puis ce que ça permet, puis tous les morceaux de cette affaire-là, ça va être difficile de choisir une action. Parce que c'est comme l'aveugle qui lead l'aveugle. Ben, s'il ne voit pas, il ne peut pas t'amener nulle part. Là, ou il ne t'amènera pas à bon port ou pas rapidement. Donc ça, je pense que c'est le premier point. Ensuite, je pense que le bilan, ça demeure pertinent. Voir avec la haute direction, on s'en va où, tu sais. On est-tu clair, nous, comme organisation, là-dessus? Donc, je pense déjà de se regarder le nombril. Avec ça, ça serait déjà pas pire. Puis, en fonction de où est-ce qu'on s'en va, Moi, je ferais formel ou informel. C'est sûr que là, on est-tu en présentiel, pas en présentiel, ça complexifie. Mais si on pouvait avoir des rencontres informelles qui étaient plus faciles autour de la machine à café ou autour d'un lunch quand on était en présentiel, de s'asseoir avec les gens, puis limite de faire la liste des irritants et des frustrations, puis revenir, comme je disais tout à l'heure, sur les fameuses tendances qu'on pourrait voir émerger chez nous ou pas. Puis à partir de là, je pense qu'on aurait comme une première piste. Puis après, ben, c'est qu'est-ce qui est urgent, important, tu sais, il y a la fameuse matrice là, de Eisenhower, si je me trompe pas, puis d'essayer de faire des regroupements d'idées, puis de se faire un brainstorm soit avec l'équipe ou soi-même, puis d'essayer de piner nos affaires dans les bonnes cases, là, tu sais, urgent, pas important, pas important, urgent, bref, puis regarder pour essayer de se faire un plan d'action. Donc voilà, parce que si vous voulez que la direction investisse éventuellement des dollars ou éventuellement recrute quelqu'un à l'interne, va falloir faire la démonstration et donc va falloir que l'équipe de direction prenne conscience de la problématique. Et ça, va falloir que vous ayez fait le travail en amont pour voici les faits chez nous. Et à partir de là, ouvrir la conversation avec eux et voir ce que l'équipe en pense. Et puis ça revient encore à on s'en va où, nous comme équipe, c'est quoi le plan dans 2 ans, par exemple.
Pendant que tu dis tout ça, ça me fait penser que, bon, quand on essaye de faire passer un projet à la haute direction, ben, c'est toujours money talks, hein? C'est
Oui.
toujours business case.
Yes.
Montre-moi quel est le problème, montre-moi combien qui me coûte ce problème-là actuellement, puis montre-moi c'est quoi mon ROI, puis dans combien de temps je vais avoir mon payback, right? C'est ça
Exact.
l'habitude, la haute direction.
Oui.
Sauf que quand on parle d'un projet de marque employeur, on parle d'humain, on parle d'impact humain. On a de la misère à mettre des chiffres à côté de ça. Donc, je t'écoute puis je me dis, hey, là, je viens de catcher la complexité de monter un business case parce que tu n'es pas capable facilement d'avoir des données financières sur la moins bonne marque employeur que tu as actuellement. Tu es capable de savoir que ton processus de ci, ça t'amène telle difficulté, mais c'est complexe en tabarnouche de mettre des dollars à côté, hein?
Fait que je vais partager 2 ou 3 éléments de réponse à cette question-là aux gens qui nous écoutent. Premièrement, garochez-vous pour aller acheter le livre Proving the Value of HR de Jack Phillips. Là-dedans, vous allez avoir un outil qui vous donne la façon de calculer le coût du roulement. Donc, mettre des signes de pièce sur ça me coûte combien un départ. Cette personne-là est un chercheur américain qui a travaillé pendant des décennies sur la grande question du retour sur l'investissement, entre autres en communication marketing, et il a décidé de faire un livre, ou en tout cas des recherches, sur les initiatives de ressources humaines. Là-dedans, il suggère des choses très simples. Il a fait, voici ce que je pense que tout ça coûte à l'organisation quand quelqu'un quitte. Fait que tu n'as même pas besoin d'avoir le détail de OK, l'annonce, ça m'a coûté combien? Le recruteur, il a passé 20 heures dans son année là-dessus. Pas besoin de faire le granulaire comme ça parce qu'on arrive avec un pourcentage min et max du salaire annuel de la personne selon la catégorie d'emploi. Donc là-dedans, tu viendrais refaire la liste de tous tes départs dans la dernière année, 24 mois. Puis si on est vraiment assidu, moi, j'irais jusqu'à 5 ans, mais je pense qu'après 3 ans, c'est fair si on veut vraiment se comparer. Donc, premièrement, faut, oui, se comparer à l'externe, c'est intéressant, mais il faut se comparer de nous-mêmes à nous-mêmes, donc d'une année à l'autre, parce que ce qui compte réellement, c'est ça. Est-ce que j'ai plus ou moins de départ d'une année à l'autre? Si c'est plus, ben, enfin, dans les 2 cas, pourquoi? Donc, ça, c'est la première des choses. Une fois que j'ai ma liste, que j'ai mis les salaires que les gens gagnaient ça, que j'ai l'outil de M. Phillips, puis que je mets tout ça ensemble, j'ai déjà un premier montant. Donc, moi, je peux te garantir, Ariane, pour l'avoir calculé dans plusieurs organisations, après 4 départs, puis là, je ne parle pas de manager, ni d'exécutif, ni d'expert senior, the average Joe, appelons-le comme ça, là, ou average Joanne, c'est 100 000 $ après 4 départs. Le problème, c'est que ça m'a pas coûté 100 000 piastres. Quand ils sont partis, j'ai pas donné à quelqu'un 100 000 $. C'est vrai. Et c'est ça qui fait que des fois, c'est difficile pour les équipes de gestion de comprendre ça parce que j'ai pas réellement payé.
Oui.
Par contre, moi, sans rentrer encore une fois dans les détails, j'ai des organisations que j'accompagne avec qui on a fait le travail. Et après, je dirais 25 départs dans l'année, on est déjà dans le million de dollars de dépenses en coût de roulement.
Ouch!
Juste pour 20-25 départs. Et l'autre chose que les gens de ressources humaines, parce que ce n'est pas notre force, les données et les dollars, ne font pas, est-ce qu'ils n'ont pas compris, puis à chaque fois que j'en parle, les gens capotent, c'est combien, c'est pas combien ça coûte, ce qui est lié au taux, au délai d'embauche. Fait que le délai quand il n'y a personne dans la chaise, c'est pas combien ça coûte, c'est combien d'argent l'organisation ne fait pas pendant que la chaise est vide. Ça, il y a moyen de le calculer. Et si, par exemple, un employé rapporte 10 000 $ par semaine et que ça prend un mois combler ce poste-là, puis que j'ai 5 postes pareils à combler, ben 10 000 fois 4 par personne, ça fait 40 000 $ de revenus perdus fois 4 personnes. Donc là, on rajoute 120 000 $ de revenus perdus. Et la troisième question qu'il faudrait se poser, donc, c'est, pour résumer, là, c'est combien ça me coûte le taux de roulement, combien d'argent je fais pas pendant que la chaise est vide, et si je fais rien, ça me coûte combien? Parce que rien faire, ça a un coût.
Ah, le statu quo, c'est notre pire ennemi, ça. Hein? On veut avancer, mais rester comme ça, on pense que ça peut coûter moins cher, mais c'est faux!
Exact. Puis je terminerai juste avec un dernier calcul. Quand tu accueilles et t'intègres une nouvelle personne, la personne, elle est payée, revenons à 100 000 juste parce que ça m'aide à faire des calculs, la personne, elle est payée 100 000 $ par année. La personne, elle va être, on le sait, c'est normal quand tu arrives dans une nouvelle organisation, ça prend 3 mois, 6 mois, des fois jusqu'à 12 mois pour être à 100% opérationnel. Ben si on est hyper mercantile, comme ce que va exiger la haute direction parce qu'elle va vouloir des signes de dollars, là, moi, là, coupons la poire en deux. Disons que ma nouvelle recrue, elle est à 60% efficace du premier jour aux 6 premiers mois. Puis qu'elle a rendu au 6e mois jusqu'à la fin de l'année, elle est efficace à 100%. Ben, ça veut dire qu'il y a 50 000 $ où elle est efficace à 100% pour le 50 000 de la première partie de l'année pour son salaire. Mais le 50 000 qui reste, là, si t'es performant à 60 % au lieu de 100 % ben ça, c'est un coût réel. Là, je suis pas bon en chiffres, mais mettons que c'est 20 000 $ là, que la personne n'est pas productive là, le temps qu'elle se forme. Là. Ben 20 000 $ fois le nombre d'embauches par année, ça, c'est de l'argent que tu dépenses pour de vrai, que tu vois pas, mais qui n'est pas productif. Et là, on ne me voit pas parce que ça va être juste le son, mais je mets des gros guillemets quand je dis ça à rien en ce moment. Mais c'est ça. Tu sais, c'est 20 000 $ par nouvelle embauche de, entre guillemets, avec des gros guillemets, perdu par embauche par année. Fait qu'on peut-tu réduire ce gap-là, s'il vous plaît, quelqu'un? Puis comment qu'on le fait? Ben, c'est entre autres avec la marque employeur.
Wow! Merci! Tu sais, je sais que l'aspect financier, souvent en RH, on n'aime pas trop ça en parler, hein, parce qu'on est axé sur l'humain. Mais pour faire passer des projets comme ça, on n'a pas le choix de le comprendre pour avoir le même langage que la haute direction. Donc, je trouve que tout ce que tu viens de dire là, c'est extrêmement important, Vincent. Merci beaucoup. Écoute, on va se laisser là-dessus, mais j'aurais envie de continuer à te parler pendant des heures. J'espère qu'on aura encore l'occasion. Donc, juste pour finir, dis-nous donc comment on te rejoint, qu'est-ce qu'on peut faire si on veut avoir plus d'infos, comment on peut travailler avec toi?
Ben oui, écoute, s'il y a une partie 2, 3, 4, ça me fera grand plaisir. Merci pour ce temps-là, Ariane, c'était très chouette. LinkedIn, fait que je reviens sur Mazrou, ça sera sûrement écrit dans l'épisode, mais M-A-Z-R après le Z-O-U. fait que vous allez diriger tout vers LinkedIn, ça va être vraiment beaucoup plus simple, mais sinon, si après vous voulez voir, parce qu'il y a plein de choses qui vont sortir en 2022, attribut.ca, donc attribut, pas de T à la fin, .ca. Ah, puis j'ai aussi le podcast des humains et des marques, si les gens sont intéressés à en savoir plus sur la marque employeur, puis plus largement, des humains et des marques, un épisode aux deux semaines aussi.
Donc, un gros merci, Vincent, et au plaisir de se reparler bientôt.
Merci, à toi aussi.
C'était tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Ce fut un véritable plaisir de m'entretenir avec Vincent et je vous invite à le contacter si vous avez des questions en lien avec votre marque employeur. Dans le prochain épisode, je recevrai François Latulippe, un créateur de contenu et consultant en marketing social que j'apprécie particulièrement et je suis sûre que ce sera votre cas aussi. On va parler du concept d'employé ambassadeur, bien connu sous le nom de Employee Advocacy. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve pour le prochain épisode en février.